Je suis ravi de vous accueillir au nom des éditions de la MSH pour la présentation d'un ouvrage tout à fait exceptionnel, dont la version française a vu le jour grâce au programme de traduction franco-allemand de la Maison des Sciences de l'Homme. Nous avons le plaisir d'avoir parmi nous l'auteur de ce livre, Gerd Schwerhoff, historien allemand et professeur émérite à l'Université technique de Dresde. Ses recherches portent sur l'histoire sociale et religieuse de l'Europe moderne, notamment sur la criminalité, la sorcellerie et les mentalités religieuses. Donc, le livre que nous présentons ce soir, qui s'intitule en français Dieu maudit, l'histoire du blasphème, je ne le lirai pas en allemand pour ne pas faire des fautes de prononciation, a été publié pour la première fois en allemand, donc aux éditions Fischer en 2021. Et cet ouvrage passionnant, au-delà de l'histoire peu connue du blasphème à travers les siècles, ses enjeux religieux, sociaux et politiques depuis l'Antiquité, offre un regard éclairant sur les rapports complexes entre les sociétés et le sacré, et reste plus que jamais d'actualité dans le contexte des débats modernes sur la liberté d'expression. À ses côtés, nous accueillons Olivier Christin, professeur d'histoire moderne à l'Université de Neuchâtel et spécialiste reconnu de la réforme de l'histoire religieuse. Et il est également l'auteur de la préface à l'édition française du livre de Gerd Schwerhoff. Je souhaite aussi saluer la présence d'Anne-Sophie Anglaret, qui est la traductrice de cette édition, évidemment dont le travail a été essentiel à la réussite de ce projet. La discussion, qui sera en allemand et en français, enfin on verra comment les choses vont se présenter, sera traduite en simultané par Hugo Kick, et que je tiens à remercier. Enfin, je voudrais exprimer notre gratitude générale de la Fondation à nos partenaires pour leur soutien, le DAD, le DFG, l'Université technique de Dresde, et surtout le Goethe-Institut et le Centre Georg Simmel de la HESS avec lesquels nous avons co-organisé cette soirée. Je tiens à saluer la présence des directeurs de ces institutions qui nous font l'honneur et l'amitié d'être parmi nous. Le livre que nous allons présenter ce soir sera officiellement dans les librairies le 26 septembre, mais il est déjà proposé à la vente au comptoir juste à côté, si vous souhaitez le faire signer par l'auteur. La soirée est enregistrée, donc s'il y a des questions à la fin, faites bien attention de parler dans le micro pour que tout soit récupérable. Donc je vous souhaite une excellente soirée dans les méandres d'un sujet qui sent un peu le soufre. Mais nous verrons. Voilà.
Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie heute Abend gekommen sind zur Präsentation meines Buches auf Französisch. Ich bin stolz und glücklich, dass ich das tun kann heute Abend, und ich möchte mich in allererster Linie bedanken. Die Institutionen, bei denen ich mich bedanken möchte, sind schon genannt worden. Deswegen spare ich mir das hier. Aber hinter den Institutionen stehen ja Menschen, und die möchte ich schon nennen. Bettina Sundt, die mich freundlich hier aufgenommen hat, Astrid Zornhillig, Elena Bertrand und Anna Calvier und natürlich Falk Brettschneider, mein Freund und Kollege. Vielen Dank an Sie alle. Besonders dankbar bin ich aber an Sophie Anglaret. Sie hat das Buch nicht nur hervorragend übersetzt, sondern sie hat es noch einmal sehr sorgfältig lektoriert, den wissenschaftlichen Apparat überprüft und nicht zuletzt einige Fehler da gefunden, die ausgemerzt werden konnten, und den Apparat auf französische Referenzen umgestellt. Mit anderen Worten, sie hat die verfluchten Götter zu einem besseren Buch gemacht, das jetzt zu einem guten Teil auch ihr Buch ist, und ich stehe tief in ihrer Schuld. Je ne sais pas comment vous remercier, Anne-Sophie. Der FMS Asch und dem Goethe-Institut gilt mein Dank natürlich auch für diese schöne Gelegenheit, das Buch heute Abend vorstellen zu dürfen. Und nicht zuletzt ist es mir natürlich eine große Ehre und Freude, Olivier Christin, meinen Kollegen, bei dieser Gelegenheit an meiner Seite zu wissen, der bereits ein sehr kluges Vorwort zum Buch beigesteuert hat. Merci beaucoup à tous et à toutes.
Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous souhaiter la bienvenue et de vous présenter mon livre ce soir. Et c'est une joie et un honneur. Les institutions que je tenais à remercier ont déjà été citées, donc j'en ferai l'économie. Mais derrière les institutions, il y a aussi des hommes et des femmes que je tiens tout particulièrement à remercier. Bettina Sundt qui m'a reçu, Astrid Thornhillich, Elena Bertrand, Anna Calvière et bien sûr mon ami et collègue Falk Brett Schneider. Et j'exprime un remerciement tout particulier à Anne-Sophie Anglaret qui a remarquablement traduit ce livre. Et on a fait également une révision minutieuse, a adapté les références en français, chassé et éliminé les erreurs. Elle a amélioré ces dieux maudits qui sont à présent pour une bonne part également son livre. Et je lui suis profondément reconnaissant. Je remercie à nouveau la FMSH, l'Institut Goethe, de me donner l'occasion de présenter mon livre ce soir. Et c'est bien sûr une grande joie et un honneur d'avoir à mes côtés mon collègue Olivier Christin, qui a déjà rédigé une préface extrêmement pertinente. Merci beaucoup et merci à toutes et à tous.
Ich möchte mit meiner persönlichen Motivation beginnen. Was hat mich 2017 veranlasst, dieses Buch in Angriff zu nehmen? 20 Jahre zuvor hatte ich eine Habilitation abgeschlossen, die von der Blasphemie im späten Mittelalter und in der frühen Neuzeit handelte. Blasphemie war also für mich ein altes Thema, ein altes Interesse und es zielte in erster Linie darauf, die fremde Welt der europäischen Vormoderne zu erkunden und besser zu verstehen. Zugleich war damals schon das Thema ein wenig lebensweltlich motiviert. 1989, als ich das Thema fand, hatte die Fatwa des Ayatollah Khomeini gegen Salman Rushdie wegen dessen angeblich blasphemischer, satanischer Verse Schlagzeilen gemacht. Ein trauriges Ereignis, was ja nochmal aktualisiert worden ist durch die schreckliche Messerattacke auf den Dichter von vor 2 Jahren.
Tout d'abord, ce qui m'a motivé à commencer ce livre en 2017. 20 ans plus tôt, j'avais terminé une thèse d'habilitation sur le blasphème au Moyen-Âge tardif, et le blasphème était donc pour moi un intérêt de recherche ancien, qui me permettait avant tout d'explorer, de mieux comprendre les sociétés traditionnelles en Europe. Mais déjà à l'époque, le sujet était motivé par l'actualité. En 1989, l'ayatollah Khomeini lançait sa fatwa contre Salman Rushdie pour ses versets sataniques prétendument blasphématoires. La triste actualité de ce verdict nous a paru qu'il y a 2 ans au moment de l'attaque au couteau contre l'écrivain.
Nun, 20 Jahre später, stand die Welt unter dem Eindruck neuer und stärkerer globaler Blasphemie-Skandale. Zuletzt dem Attentat auf Charlie Hebdo im Januar 2015, zuvor bereits durch die weltweite Empörung über den Karikaturenwettstreit der dänischen Zeitschrift Jyllands-Posten im September 2005. Das hat wiederum einige historische Spezialstudien angeregt und es gab immer einmal wieder auch Versuche, eine epochenübergreifende Geschichte der Blasphemie zu schreiben. Alain Cabatus hatte das ja lange vorher schon versucht, in den 80er Jahren. Seine und die vielen anderen nachfolgenden Arbeiten waren für mich wertvoll und ich konnte darauf aufbauen. Aber für meinen Geschmack trafen sie konzeptuell nicht alle den Punkt. Oft stand nicht die Blasphemie im Mittelpunkt, sondern zum Beispiel der Kampf um Meinungsfreiheit, der Kampf um Toleranz. Die Klage war damit verbunden, eigentlich sei Blasphemie nicht fassbar, es handle sich um ein imaginäres Verbrechen, so hat es Jacques de Saint-Victor formuliert. Häufig wurde Blasphemie auch mit anderen Tatbeständen vermischt, etwa mit der Häresie, mit der sie zwar verwandt ist, aber keineswegs identisch.
20 ans plus tard, nous sommes aujourd'hui sous le choc de scandales mondiaux de blasphème plus retentissants, le dernier en date étant l'attentat sur Charlie Hebdo en janvier 2015. Et avant lui, l'indignation mondiale suscitée par la controverse des caricatures du journal Jyllands-Posten en septembre 2005. Il y avait eu dans la recherche historique de nombreuses études spécialisées et précieuses et des tentatives récurrentes d'écrire une histoire du blasphème sur plusieurs époques. Par exemple, celle d'Alain Cabantou dans les années 1980. Et je pus moi-même m'appuyer sur ses travaux et d'autres qui furent pour moi précieux. mais à mon goût, sur le plan conceptuel, il n'y était pas tout à fait. Souvent, il n'était pas centré sur le blasphème, mais plutôt sur la lutte pour la liberté d'expression ou la tolérance. Et on se plaignait aussi que le blasphème était quelque chose d'insaisissable, qu'il s'agissait d'un crime imaginaire, pour citer Jacques de Saint-Victoire. Souvent, le blasphème était confondu avec d'autres faits, comme l'hérésie qui lui était apparentée, mais en aucun cas identique.
Ich bin im Lauf meiner Überlegung demgegenüber zu einer sehr einfachen Definition von Blasphemie gekommen. Blasphemie ist danach die Herabwürdigung des Heiligen, der Vorwurf also, dass Gott, der Prophet, andere heilige Dinge oder auch geheiligte Werte verletzt und beleidigt würden. Es geht mithin um einen performativen Sprechakt, nicht in erster Linie um Meinungen, Ideen oder Überzeugungen. Der Vorteil dieser Definition liegt darin, dass sie auf alle möglichen Epochen und Räume angewandt werden kann, und zwar gerade nicht, um den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden, sondern um Differenzen herauszuarbeiten und den historischen Wandel angemessen verstehen zu können. Im Folgenden möchte ich die historische Entwicklung im Okzident gleichsam im Fast Forward kurz Revue passieren lassen. Das ist im Übrigen eine wichtige Einschränkung. Das Buch erzählt seine Geschichte ziemlich eurozentrisch, aus ganz pragmatischen Gründen. Es ist ja eigentlich schon eine Anmaßung für einen Frühneuzeitler wie mich, auch nur die Antike und die Zeitgeschichte angemessen verstehen zu können. Deswegen beschränke ich mich, je mehr ich mich der Gegenwart nähere, auf wenige Länder, insbesondere auf Deutschland, auf Frankreich und auf England. Ich hoffe aber, mit dem Buch einige systematische Erkenntnisse gewonnen zu haben, damit wir vor dem Hintergrund der Geschichte der Blasphemie einige kommunikative Dynamiken der Gegenwart auch besser verstehen können.
Au fil de mes réflexions, je suis arrivé à une définition assez simple du blasphème. Le blasphème est un dénigrement du sacré, une injure, une offense envers Dieu, le prophète, d'autres choses ou valeurs sacrées. Partant, il s'agit là d'un acte de langage performatif et non en premier lieu d'idées, d'opinions ou de convictions. L'avantage de cette définition est de pouvoir être appliquée à nombre d'époques et d'espaces, non pas pour trouver le plus petit dénominateur commun, mais justement pour identifier les différences et comprendre adéquatement l'évolution historique. Je vais à présent rapidement passer en revue les évolutions historiques en Occident, et c'est d'ailleurs une limite importante. Ce livre est écrit depuis une perspective assez eurocentrique. Pour des raisons pragmatiques, et c'est déjà un peu prétentieux pour un spécialiste du début de l'époque moderne, de traiter ne serait-ce que sur cet espace-là une période allant de l'Antiquité à aujourd'hui. Et voilà pourquoi, au fur et à mesure que j'avance vers l'époque contemporaine, je me concentre sur une poignée de pays, principalement l'Allemagne, la France et l'Angleterre. J'espère toutefois que ce livre aura permis d'acquérir quelques connaissances systématiques. Et peut-être pouvons-nous, dans le contexte de l'histoire du blasphème, mieux comprendre certaines dynamiques communicatives à l'époque moderne.
Ich beginne in der klassischen Antike bei den Griechen und Römern, wo zweifellos vielfältige Vorformen der Blasphemie existierten. Die anthropomorphen Götter des Hesiod waren äußerst sensibel gegenüber Herabsetzungen durch die Menschen und sie bestraften diese Herabsetzungen oft grausam. Bereits im Athen des Peloponnesischen Krieges wurden angebliche Blasphemiker vor die Schranken des Gerichts gezerrt und wegen Asebeia, wegen Gottlosigkeit, angeklagt, der Feldherr Alcibiades ebenso wie der Philosoph Sokrates oder 1415 vor Christus Diagoras von Melos, dem der sprechende Beiname Ho Atheos beigelegt wurde. Meist ging es weniger um persönliche Herabwürdigung eines bestimmten Gottes, als um rituelle Vergehen wie Tempelraub, mit John Scheidt gesprochen, um Vergehen gegen die Orthopraxie, nicht gegen die Orthodoxie.
Commençons par l'Antiquité classique, chez les Grecs et les Romains, où existaient de premières formes de blasphème. Le monde des dieux anthropomorphes d'Hésiode était très sensible vis-à-vis du dénigrement par les hommes, qui se payaient souvent sévèrement. Déjà, dans l'Athènes de l'époque de la guerre du Péloponnèse, les blasphémateurs présumés étaient traînés en justice pour cause d'asébéia, d'impiété. Ce fut le cas d'Alcibiade, commandant de la flotte, de Socrate, philosophe, ou en 415, de Diagoras de Mélos, affublé d'un surnom révélateur, O Atheos. Il s'agissait moins d'un dénigrement personnel d'un dieu en particulier qu'un crime rituel comme un pillage de temple. Pour citer John Schaet, un crime contre l'orthopraxie, non contre l'orthodoxie.
Die entscheidende Grundlage für die Entstehung des eigentlichen Blasphemiedelikts legte dagegen der jüdische Monotheismus im Dekalog. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, so steht es im Alten Testament. Zum Maßstab für die angemessene Strafe wurde die von Gott verfügte kollektive Steinigung eines Mannes, der Gott gelästert und verflucht hatte. Die mosaische Unterscheidung, wie es Jan Assmann genannt hatte, die Unterscheidung zwischen dem wahren und dem falschen Gott, zwischen dem Gott, dem die Israeliten Treue geschworen hatten, und dem anderen Abgöttern, schuf eine Konstellation des radikalen Antagonismus. Folgerichtig ergab sich aus dieser dichotomen Konstellation gleichsam ein Zwang zur Herabwürdigung anderer religiöser Kulte und spiegelverkehrt die Abwehr der wahrgenommenen Geringschätzung des eigenen Gottes. Diese Unbedingtheit sicherte dem Judentum seine Identität in der Diaspora, machte es aber zugleich als Religionsgemeinschaft angreifbar.
Le fondement pour l'émergence d'un véritable délit de blasphème fut posé par le monothéisme juif dans le Décalogue. « Tu n'invoqueras pas le nom du Seigneur, ton Dieu, pour tromper », est-il écrit dans l'Ancien Testament. La juste peine devint la lapidation collective décidée par Dieu d'un homme qui avait blasphémé et maudit Dieu. La distinction mosaïque, comme l'a appelé Jan Assmann, entre le vrai et le faux Dieu, entre le Dieu auquel les Israélites avaient juré fidélité et les autres idoles, créa une constellation de l'antagonisme radical. Par conséquent, il découla de cette constellation dichotome l'obligation de dénigrer d'autres cultes religieux et inversement de lutter contre ce qui était perçu comme le mépris du propre Dieu, de son propre Dieu. Et cette intransigeance assura au judaïsme son identité dans la diaspora, mais le rendit à la fois attaquable comme communauté religieuse.
Ich überspringe die komplexe weitere Entwicklungsgeschichte in der Antike, die ich im Buch auch nur kurz skizzieren konnte, und halte fest, die Christen waren die Haupterben des unbedingten Wahrheitsanspruchs des jüdischen Monotheismus. Von Beginn an war der Weg des Christentums gepflastert mit Schmähungen und Herabsetzungen gegen alle vermeintlichen oder tatsächlichen Feinde, gegen die Juden, gegen die Heiden und gegen konkurrierende Kulte, etwa den Manichäismus, aber auch gegen innere Gegner, die Donatisten, die Arianer, die Monophysiten und die Nestorianer und wie sie alle heißen. Bereits Mitte des dritten Jahrhunderts charakterisierte Bischof Cyprian von Karthago seine innerkirchlichen Gegenspieler als schwere Verbrecher, verdammte Feinde Christi, lügenhafte Teufelssöhne, die Geld unterschlagen, Jungfrauen schänden und Ehen zerstören. Aber ihr schwerstes Verbrechen bestünde darin, rechtmäßige Vertreter des Glaubens wie ihn zu schmähen und zu verleumden. Unmäßige Schmähungen der anderen, verbunden mit dem Vorwurf, diese setzten in unerträglicher Weise die eigene Lehre herab, wurde geradezu zum Markenzeichen des Christentums, erst recht, als es im 4. Jahrhundert zur römischen Staatsreligion aufstieg.
Je passe sur cette évolution que je n'ai aussi pu qu'esquisser dans mon livre pour conclure que les chrétiens furent les héritiers principaux de ces exigences de vérité du monothéisme juif. Depuis le début, sa voie était pavée d'outrages et de dénigrements contre tous les ennemis véritables ou présumés, contre les juifs, les païens, les quelques concurrents comme le manichéisme, ou encore contre les adversaires internes, les donatistes, ariens, monophistes ou nestorianiens et les autres. Déjà au milieu du IIIe siècle, l'évêque Cyprien de Carthage qualifiait ses adversaires au sein de l'Église de grands criminels, d'ennemis damnés du Christ, de menteurs, fils du diable, qui voleraient de l'argent, violeraient des vierges et détruiraient des mariages. Leur pire crime était cependant d'outrager et de diffamer des représentants de l'orthodoxie comme lui-même. L'outrage immodéré des autres, en plus de l'accusation de déprécier de façon insupportable le propre enseignement, est devenu une véritable marque de fabrique du christianisme, en particulier lorsqu'il devint religion d'État dans l'Empire romain au IVe siècle.
Zum eigentlichen Geburtsmoment des Delikts der Blasphemie aber wurde die Justinianische Novelle 77. worin in einem Atemzug die Wollust gegen die Natur und die Lästerungen gegen Gott, blasphemare in Deum, verboten wurden. Wahrscheinlich 538 im Anschluss an eine Pestwelle von Kaiser Justinian mit Blick auf seine Hauptstadt Konstantinopel erlassen, markiert die Novelle eine neue Stufe obrigkeitlicher Politik. Das verwerfliche Sprechen gegen Gott, das dessen Zorn und dessen Strafen zu provozieren droht, wird vom Herrscher unter strengste Strafe gestellt. Damit erweist sich der Herrscher als Garant gesellschaftlicher Ordnung und unterstreicht seine Legitimität. Ebenso wie die Wollust contra naturam im Mittelalter nach alttestamentlichem Modell als Sodomie stigmatisiert, handelt es sich bei der Blasphemie um ein Offizialdelikt, bei dem die Obrigkeit stellvertretend für das eigentliche Opfer der Schmähung reagiert, also für Gott in diesem Fall. Mit der Gesetzgebung Kaiser Justinians im 6. Jahrhundert gewann zugleich eine Variante der Gotteslästerung klarere Konturen, die später dominant werden sollte, nämlich die unziemliche Verwendung des göttlichen Namens in groben Schwüren und Flüchen. Damit gewinnt die Blasphemie an Profil als ein Vergehen, das aus der Mitte der eigenen Glaubensanhänger heraus verübt wird, nicht nur von den anderen.
La véritable naissance du délit de blasphème a cependant lieu avec la nouvelle 77 de Justinien, qui interdit du même coup la luxure contraire à la nature et le blasphème contre Dieu, blasphemare in Deum. Proclamé probablement en 538 par l'empereur à la suite d'une épidémie de peste en sa capitale Constantinople, cette nouvelle marque une nouvelle étape politique des autorités. Le blasphème contre Dieu, qui menace de provoquer son courroux et son châtiment, est puni d'une lourde peine et permet à l'empereur de se présenter comme le garant de l'ordre social et de renforcer sa légitimité. À l'instar de la luxure contra naturam, stigmatisée au Moyen-Âge selon le modèle de l'Ancien Testament comme sodomie, le blasphème est une infraction poursuivie d'office pour laquelle les autorités réagissent à la place de la victime à proprement parler, à la place de Dieu. Au VIe siècle, la législation de l'empereur Justinien donna pour la première fois une définition plus claire d'une autre variante du blasphème qui devint plus tard majoritaire, l'usage illégitime du nom de Dieu dans les jurons et les malédictions. Il prit ainsi l'allure d'un crime commis au sein même du cercle des fidèles et pas seulement par les autres.
Zum ersten klassischen Zeitalter der Blasphemie wurde dann aber erst das spätere Mittelalter und die frühe Neuzeit, als die staatlichen und kirchlichen Ordnungsmächte, allen voran die Könige und die Städte, ihre Untertanen verstärkt zu disziplinieren suchten und Zungensünden in vielfältiger Weise kriminalisierten. Blasphemie wurde hier zu einem Leitdelikt. Seit der Wende vom 12. zum 13. Jahrhundert wird Blasphemie in einem engeren Sinne definiert als Entehrung Gottes, als Entehrung seiner Mutter Maria, seiner Heiligen und seiner Bilder. Was konnte es Schlimmeres geben als einen solch verbalen oder symbolischen Angriff auf den Schöpfergott? Nach allgemeiner Überzeugung reagierte der Allmächtige sehr menschlich auf diese Anschläge gegen seine Majestät und drohte in seinem Zorn drakonische Strafen an, würde die Gemeinschaft seine Entehrung nicht entschlossen an den Tätern rächen. Von daher waren die angedrohten weltlichen Strafen drakonisch sehr hart, bis hin zum Verlust der Zunge und des Lebens.
C'est d'abord le Moyen-Âge tardif, puis le début de l'époque moderne, qui devint le premier âge classique du blasphème, lorsque les autorités de l'État, de l'Église, cherchaient à davantage discipliner leurs sujets et criminalisaient les pécheurs de la langue de nombreuses manières. Depuis le tournant du XIIe-XIIIe siècle, le blasphème est défini comme une atteinte à l'honneur de Dieu, à sa mère, à ses saints et à ses images. Que pouvait-il y avoir de pire qu'une telle atteinte verbale et symbolique à l'encontre du Créateur? La conviction générale était que le Tout-Puissant réagissait de façon très humaine contre ces agressions et menaçait le Tout-Puissant dans sa colère de recourir à des châtiments collectifs draconiens si la communauté ne vengeait pas l'affront. Par conséquent, les châtiments terrestres étaient très durs, draconiens, et allaient jusqu'à la perte de sa langue et de sa vie.
Überraschenderweise aber waren trotz derartiger Dramatisierungen selbst Theologen oft bereit, Nachsicht gegenüber den Gotteslästerern zu üben. Unfromme Reden und starke lästerliche Schwüre prägten vielfach den Alltag, in einem solchen Ausmaß, dass an eine nachhaltige Disziplinierung kaum zu denken war. Insbesondere in Konfliktsituationen wurden blasphemische Äußerungen als Mittel zur theatralischen Selbstinszenierung ganz selbstverständlich genutzt. Der starke lästerliche Redenschwang setzte sich als männlich in Frage, in Szene, ob als Landsknecht, als Seemann oder als adliger Ritter. So gab es also unter dem Strich eine große Bandbreite in der Bewertung von Blasphemie, die von Dramatisierung bis zur Verharmlosung reichen konnte. Die zeitgenössischen Rechtsgelehrten und Theologen versuchten, die Ambiguität abzumildern, indem sie zwischen fahrlässigen und vorsätzlichen Lästerungen unterschieden. Für lange Jahrhunderte war die Profanierung des Heiligen im vormodernen Europa allgegenwärtig. Und ich denke, kaum eine andere Religion war so stark blasphemisch geprägt wie das abendländische Christentum. Bis heute unterscheidet es sich dadurch stark vom Islam, würde ich denken. Es wäre aber grundfalsch, diesen Tatbestand als Zeichen eines schwachen oder oberflächlichen Glaubens zu deuten. Im Gegenteil lässt sich die Gotteslästerung als eine Art Kehrseite der Allgegenwart von Religion verstehen. Nicht ohne Grund hat sie Johann Heusinger, also die Blasphemie, schon vor rund 100 Jahren als Ausdruck einer manchmal allzu großen Nähe und Vertrautheit mit den transzendenten Mächten interpretiert.
De façon étonnante, en dépit de telles dramatisations, même des théologiens étaient prêts à se montrer indulgents pour les blasphémateurs. Les propos impies, les violents jurons étaient si présents dans la vie ordinaire qu'il semblait impossible de discipliner durablement la société. Dans des situations de conflit en particulier, les paroles blasphématoires étaient utilisées de façon toute naturelle pour se mettre en scène. Ceux qui usaient de paroles blasphématoires se mettaient en scène comme hommes virils, qu'ils fussent fantassins, marins, chevaliers. Il y avait donc toute une palette de jugements portés sur le blasphème, allant de la dramatisation à la minimisation. Les juristes et les théologiens de l'époque essayaient d'atténuer cette ambiguïté en distinguant entre les blasphèmes négligents et les blasphèmes délibérés. Durant de longs siècles, la profanation du sacré était si omniprésente dans les sociétés traditionnelles occidentales, et il me semble que la chrétienté occidentale était, plus qu'une autre religion, teintée de blasphème. Et il me semble encore qu'à cet égard, elle se distingue toujours aujourd'hui fortement de l'islam. Il serait néanmoins faux d'y voir l'indice d'une foi vacillante ou superficielle. Au contraire, le blasphème peut être considéré comme une forme d'envers de l'omniprésence de la religion. Et ce n'est pas sans raison que Johann Huizinga, il y a près de 100 ans, l'interprétait déjà comme l'expression d'une très grande proximité, d'une très grande familiarité avec les puissances de l'au-delà.
Ich überspringe mal meine eigentliche Zeit, die frühe Neuzeit, einen Abschnitt des vorbereiteten Statements und springe gleich zur Aufklärung. Also über das Zeitalter der Konfession können wir gerne später noch reden. Aber das Zeitalter der Aufklärung markiert eine wirklich neue Phase in der Geschichte der Blasphemie. Denn hier wurde allmählich die Vorstellung obsolet, durch einen blasphemischen Akt werde Gott persönlich beleidigt und sinne deshalb auf Rache. Das markanteste Statement stammt vom Rechtsgelehrten Anselm von Feuerbach aus dem Jahr 1801. Ich habe es ja auf der Folie, lese aber noch mal vor. Zitat, dass die Gottheit ignoriert werde, ist unmöglich. Dass sie wegen Ehrenbeleidigungen sich an Menschen räche, undenkbar. Dass sie durch Strafe ihrer Beleidiger versöhnt werden müsse, Torheit. Dazu kam, dass sich allmählich auch unorthodoxe Reformen der Religion, etwa des Deismus, etablierten. Nach und nach also wuchs der Spielraum für legitime Debatten auch über religiöse Belange, ohne dass unorthodoxe Äußerungen direkt immer kriminalisiert werden mussten. Stärker als früher wurde nun zwischen Inhalt und Form, zwischen Manners und Matters, wie es im Englischen heißt, unterschieden. Vernunftgemäße Religionskritik sollte erlaubt sein, schmähende Herabwürdigung des Heiligen blieb jedoch weiter verboten.
Je saute ma période, l'époque moderne, pour tout de suite passer aux Lumières, car c'est avec les Lumières que commence véritablement une nouvelle phase. Ici, l'idée qu'un acte blasphématoire put à la fois offenser personnellement Dieu et le pousser à la vengeance devint largement obsolète. Vous avez ici une citation du juriste Anselm von Feuerbach de 1801 que vous avez à l'écran, je vous la lis. « Que la divinité soit injuriée, c'est impossible. Qu'elle se venge sur les hommes à cause de son honneur blessé, impensable. Qu'il faille l'apaiser en châtiant son offenseur, une folie. » Par ailleurs, les conceptions religieuses auparavant stigmatisées comme hétérodoxes, le déisme par exemple, entrèrent de plus en plus dans les mœurs. Peu à peu s'établit un espace pour un débat légitime qui concernait également les questions religieuses sans que les déclarations non orthodoxes ne fissent immédiatement l'objet d'une criminalisation. La distinction entre le contenu et la forme, entre matters et manners, devient plus forte qu'auparavant. Une critique raisonnable devait être autorisée, mais les dénigrements injurieux du sacré demeuraient interdits.
Das bedeutete mit anderen Worten, Blasphemiegesetze existierten zumeist weiter, rückten aber nun andere Schutzziele in den Vordergrund, nämlich vor allem die Bewahrung der Religion als Fundament der öffentlichen Ordnung und oder den Schutz von Religionsgemeinschaften vor der Schmähung durch andere. Verstärkt wurde nun auch über den Schutz religiöser Empfindungen debattiert, eine Entwicklung, die in die Zukunft weist. Nur wenige Länder schafften um 1800 die Blasphemiegesetze vollkommen ab, vor allem natürlich Frankreich. Im Code Pénal von 1791 gab es keinen einschlägigen Paragraphen mehr. Zugleich blieb, so hat Alain Cabantous jüngst in einem Aufsatz gezeigt, der Vorwurf der Blasphemie im politischen Diskurs der Revolution überraschend lebendig, wobei nun aber der Angriff auf andere heilige Dinge angeprangert wurde. An die Stelle von Gott bzw. der Religion traten als sakrosankte Werte nun die Republik, die Souveränität des Volkes oder später das Vaterland. Auch das war sehr zukunftsweisend.
Cela signifie que la plupart des lois concernant le blasphème continuèrent à exister. Mais elles mirent toutefois l'accent sur d'autres objectifs, en particulier la préservation de la religion comme fondement de l'ordre public ou la protection des communautés religieuses contre les injures émanant d'autres groupes. Le débat porta à présent plus en plus sur la défense des susceptibilités religieuses. Seule une minorité de pays, et surtout la France par exemple, abolirent complètement les législations sur le blasphème. Dans le code pénal de 1791, plus de blasphème. Et pourtant, comme l'a montré dans sa dernière publication Alain Cabantous, l'accusation de blasphème était très présente dans le discours politique de la Révolution. Mais à présent, c'est l'atteinte à d'autres choses sacrées qui étaient dénoncées, les valeurs sacro-saintes de la République, la souveraineté du peuple ou de la patrie, prirent la place qu'occupait Dieu auparavant.
Der Befund für das 19. und das beginnende 20. Jahrhundert ist widersprüchlich. Häufig orchestrierten die herrschenden Eliten ihre repressiven Moralkampagnen mit Gotteslästerungsvorwürfen. Umgekehrt lieferte die Skandalisierung von Gotteslästerung in der Öffentlichkeit den Kritikern von Religion und Kirche willkommene Anknüpfungspunkte, um die herrschenden Verhältnisse in Frage zu stellen. Es gab gerichtliche Auseinandersetzungen, die Anklägern wie Angeklagten eine öffentliche Bühne boten. Ihr Ausgang war für keine der Parteien wirklich kalkulierbar. Endeten sie mit Verurteilungen, so schienen vordergründig die Ziele der Hüter von Moral und Ordnung erreicht. Andererseits konnten die Verurteilten in der Öffentlichkeit durchaus zu Märtyrern des Freidenkertums stilisiert werden. Und in Form von Freisprüchen gab es immer auch wieder empfindliche Schlappen für die Ankläger gegen Blasphemiker.
Le constat pour les 19e et début du 20e siècle est marqué par des contradictions. Les élites régnantes orchestraient régulièrement leur campagne morale d'accusation de blasphème, mais à l'inverse, les scandales provoqués dans la sphère publique fournirent à ceux qui critiquaient la religion des occasions bienvenues de remettre en question les rapports dominants. Les confrontations judiciaires offrirent une tribune publique aux accusateurs comme aux accusés. L'issue n'était réellement prévisible pour aucune des parties. Si le procès débouchait sur une condamnation, les objectifs des gardiens de la morale et de l'ordre semblaient atteints. D'un autre côté, les condamnés pouvaient faire figure dans l'opinion publique de véritables martyrs de la libre pensée. et les représentants du pouvoir ou les procureurs conservateurs essuyèrent bien souvent de pénibles revers sous forme d'acquittements.
In den Jahrzehnten vor 1989 zeichnet sich insgesamt ein deutlicher schleichender Bedeutungsverlust der Blasphemie ab. Es gab etliche einschlägige Skandale, die nicht zuletzt davon zeugen, dass die Schmählust vieler Menschen gegen Kirche und Religion wuchs. Gerade feierte Monty Pythons The Life of Brian 45-jähriges Jubiläum. Vielleicht lasse ich es dabei für diesen Abschnitt. Mhm.
Dans les décennies qui précédèrent 1989, le blasphème perdit peu à peu en importance. Il y eut certainement des scandales retentissants qui témoignaient de l'assurance et de la verve d'un certain nombre croissant d'adversaires des églises et des religions. Et d'ailleurs, les Monty Python viennent de fêter les 45 ans de la vie de Brian ici.
Alles änderte sich seit der Fatwa Khomeinis gegen Salman Rushdie 1989, mit dem die Blasphemie zu einem zentralen interkulturellen Streitthema geworden ist. Das war im Prinzip nichts völlig Neues. In der Vormoderne, um einen Moment zurückzuschauen, zum Teil bis weit in die Moderne hinein, verlief die hauptsächliche Linie des Konflikts zwischen Christen und Judentum. Die Christen schmähten die Juden als Gottesmörder und Verächter des Glaubens, kollektiv als gotteslästerliches Volk, das dem wahren Messias Jesus Christus alles Schlechte hinterherrede, ein ebenso langfristig wirkmächtiges wie verhängnisvolles Stereotyp der Mehrheitsreligion gegen die Minderheitsreligion. Daran ändert auch die Tatsache nicht, dass es tatsächlich jüdische Gegenerzählungen gab, wie im sogenannten Toledot Yeshu, wo Jesus als Bastard verhöhnt wird, der als betrügerischer Magier hingerichtet wurde.
La situation changea depuis la fatwa de Khomeini en 1989. À ce moment-là, le blasphème devint un sujet de discorde interculturel fondamental, ce qui en principe ne datait pas d'hier. Dans les sociétés traditionnelles, prémodernes, et partiellement jusqu'à la période moderne, la ligne de conflit se trouvait entre le christianisme et le judaïsme. Les chrétiens accusaient les juifs de déicide, d'outrage à la foi, collectivement d'être un peuple blasphémateur qui accuse le véritable Messie, Jésus-Christ, de tous les maux, un stéréotype à la fois puissant et funeste. Qu'il existe un contre-récit dans le judaïsme, le Toledot Yeshu, qui présente Jésus en bâtard, exécuté en magicien trompeur, n'y change rien.
Auch im Verhältnis zwischen Christen und Muslimen gab es bereits in der Vormoderne Blasphemievorwürfe und sogar Skandale. Bekannt sind die sogenannten Märtyrer von Cordoba, christliche Fundamentalisten, die im 9. Jahrhundert dutzendweise vorsätzlich den Tod suchten, indem sie öffentlich den Propheten Mohammed schmähten. Es mag sein, dass intensivere Forschung hier noch mehr Konflikte ans Tageslicht fördern würden. Dieses Thema ist weitgehend unerforscht nach meiner Beobachtung. Aber insgesamt kann es doch keinen Zweifel daran geben, dass mit der Rushdie-Affäre, mit den Mohammed-Karikaturen, mit Charlie Hebdo ein neues globales Zeitalter der Blasphemie begann, in dem die behauptete Herabsetzung des Heiligen so sehr zu einer zentralen Signatur wurde wie nie zuvor.
Dans la relation entre chrétiens et musulmans pendant la période prémoderne, il y eut également certainement des accusations de blasphème et même des scandales. On connaît par exemple les martyrs de Cordoue, des fondamentalistes chrétiens qui cherchèrent à plusieurs reprises volontairement la mort en outrageant publiquement le prophète Mahomet. Des recherches approfondies nous livreraient certainement encore davantage d'informations sur des conflits, et il me semble que ce sujet n'a pas fait l'objet de beaucoup de recherches selon moi. Mais toutefois, cela ne fait aucun doute qu'avec l'affaire Rushdie, les caricatures de Mahomet, le procès, Charlie Hebdo, etc., c'est une nouvelle ère mondiale du blasphème qui a commencé, dans laquelle le dénigrement du sacré est devenu, comme il ne l'avait jamais été auparavant, une caractéristique centrale.
Das aktuelle Zeitalter der Blasphemie steht im Zeichen von periodisch wiederkehrenden globalen Empörungswellen und Gewaltausbrüchen. Zentrale Unternehmer dabei sind nicht allein autoritäre Regime oder repressive Herrscher, die Anklagen gegen die Lästerung des Heiligen durch die anderen als willkommene politische Waffe zur inneren Repression benutzen, ob im Iran, in Ägypten oder in Pakistan. Die starke Empörung etwa über die Mohammed-Karikaturen seiner Zeit lässt sich nicht auf ein obrigkeitlich gesteuertes Kampagnengeschehen reduzieren. Sie wird auch von anderen Empörungsunternehmern befeuert, von Imamen ebenso wie von Intellektuellen. Die weltweite Mobilisierung starker Affekte lässt sich nicht allein mit Blick auf die Religion, etwa als fehlende Aufklärung in der islamischen Welt, verstehen.
L'ère actuelle du blasphème est marquée par des vagues d'indignation mondiale et des explosions de violence qui se répètent périodiquement. Les acteurs principaux ne sont pas uniquement les régimes autoritaires ou des dirigeants répressifs qui exploitent l'accusation des autres, entre guillemets, d'avoir injurié le sacré comme une arme politique opportune à des fins de répression interne, que ce soit en Iran, en Égypte ou encore au Pakistan. La violente indignation suite aux caricatures de Mahomet, par exemple, ne peut cependant être expliquée simplement par des campagnes de manipulation des autorités. Elle est aussi alimentée par des acteurs de l'indignation, comme des imams ou des intellectuels. La mobilisation mondiale par des affects forts ne peut donc uniquement être expliquée par la religion, par exemple.
Viele Muslime und ihre Sympathisanten erblickten in blasphemischen Texten, vorgeblich blasphemischen Texten und Bildern, nicht nur fehlenden Respekt gegenüber der heiligen Person des Propheten Mohammed, sondern sahen darin zugleich den Ausdruck einer fehlenden Sensibilität gegenüber der muslimischen Bevölkerung im eigenen Land wie gegenüber dem Islam weltweit. Das kulminierte in vorgeblich wissenschaftlichen Diagnosen eines grassierenden Anti-Islamismus oder gar einer Islamophobie. Gotteslästerliche Äußerungen interpretierten sie dementsprechend als eine Variante rassistischer Hassreden. Ihre Kontrahenten dagegen stilisierten Gotteslästerung zum Fanal einer Meinungsfreiheit, die verteidigt werden müsse, indem man erst recht lästerlichen Spott ausübte. Je kräftiger die Tabuverstöße, desto besser. Blasphemieanklagen und provokative blasphemische Äußerungen werden auf diese Weise nicht nur zu Kronzeugen, zu Beispielen, sondern geradezu zu Generatoren des einst von Samuel P. Huntington diagnostizierten Clash of Cultures.
Nombre de musulmans et de sympathisants n'ont pas seulement vu dans les textes et les images blasphématoires, prétendument blasphématoires, un manque de respect à l'égard du prophète. Ils les ont aussi ressentis comme l'expression d'un manque de sensibilité à l'égard de la population musulmane dans leur pays et à l'égard de l'islam dans le monde. Cela culmina avec le diagnostic prétendument scientifique d'une hostilité rampante contre l'islam ou même d'une islamophobie. Les propos blasphématoires étaient ainsi interprétés comme une variante des discours de haine raciste. Leurs adversaires, à l'inverse, présentaient le blasphème comme le fanal d'une liberté d'expression qu'il fallait défendre à tout prix en faisant usage de la moquerie. Et plus la transgression des tabous était forte, mieux c'était. Les accusations de blasphème, ainsi que les déclarations blasphématoires de provocation, n'étaient pas juste le témoin, ne venaient pas qu'illustrer, mais étaient aussi le moteur du Clash of Cultures, diagnostiqué par Huntington en 93.
Nimmt man diesen Befund, so wird deutlich, ein Blick auf die Blasphemie und ihre historische Entwicklung ist zugleich ein Blick in den Maschinenraum der Identitätspolitik. Sie stellt eine Blaupause dar für vieles, was wir derzeit in Debatten und Kampagnen rund um den weltweiten Populismus auch auf anderen Feldern erleben. Die Klage über die Verletzung der eigenen heiligen Werte und Normen, über Angriffe auf das Volk oder die Einschränkung der Freiheit, verbindet sich mit heftigen Schmähungen und Herabsetzungen gegen die anderen, die dafür angeblich verantwortlich sind. Vorgetragen werden diese Klagen von moralischen Unternehmern, die vorgeben, als Stellvertreter der gesamten Glaubensgemeinschaft oder des gesamten Volkes zu sprechen und die es damit immerhin schaffen, zumindest die Empörung eines erheblichen Teils dieser Gemeinschaften zu triggern. Es scheint gegenwärtig kaum einen effektiveren Weg zu geben, die Polarisierung der Gesellschaft voranzutreiben. Das ist im Übrigen kein Privileg von rechten Populisten. Auch im Namen von Gleichheit, Diversität und Menschenrechten können Blasphemieanklagen vorgetragen werden. Mein Buch klingt nicht nur aus mit einem Blick über Versuche in den USA, die Entweihung des Sternenbanners unter Strafe zu stellen, sondern auch mit einem Fall, in dem das Herunterreißen des Pride Banner, der Regenbogenfahne, mit einer hohen Gefängnisstrafe als Hassverbrechen sanktioniert wurde. Der Blick auf die Geschichte der Blasphemie, so scheint mir, könnte einen Beitrag dazu liefern, auf die heißen Phänomene der Gegenwart einen etwas kühleren Blick zu werfen und sie besser zu verstehen.
Partant de ce constat, il apparaît clairement, considérer le blasphème et ses évolutions historiques revient en même temps à inspecter la salle des machines de la politique identitaire. Il fait figure de plan pour bien des choses dans les débats et les campagnes liées au populisme mondial, également dans d'autres domaines. La plainte d'un outrage de ses propres valeurs et normes sacrées, d'atteinte à l'égard du peuple, entre guillemets, ou d'une restriction de la liberté, est combinée à des injures virulentes et d'un dénigrement des autres qui en seraient responsables. Ces plaintes sont formulées par des acteurs moraux qui se targuent de représenter l'ensemble d'une communauté religieuse, de parler au nom du peuple tout entier. Et ils arrivent ainsi, tout du moins, à susciter l'indignation d'une partie non négligeable de cette communauté et de la mobiliser. Cela semble actuellement, d'ailleurs, la voie la plus efficace pour accentuer la polarisation de la société. Ce n'est d'ailleurs pas un privilège des populistes de droite. Aussi, au nom de l'égalité, la diversité et les droits humains, on peut crier au blasphème. Mon livre ne se termine pas uniquement en considérant les tentatives de pénalisation du dénigrement de la bannière étoilée aux États-Unis, mais aussi par l'exemple d'une condamnation à une lourde peine de prison d'un homme qui avait décroché la Pride Banners, le drapeau arc-en-ciel, ce qui fut considéré comme un crime de haine. Considérer l'histoire du blasphème pourrait donc, me semble-t-il, permettre d'envisager les phénomènes brûlants de l'actualité d'un regard plus distancié, plus réfléchi, et ainsi mieux les comprendre.
Merci beaucoup à vous.
Merci beaucoup. Je voudrais m'en tenir aux quelques lignes que je vous ai envoyées. Il y aurait beaucoup, évidemment, à dire. D'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir convié à cette discussion. Dire que je suis extrêmement heureux de retrouver Geert Verhoef après 30 ans de notre dernière rencontre, dernière discussion sur le blasphème, je crois que c'était à Sarrebruck, avec Eva Labouvie. Donc très, très heureux, très content et très heureux d'accompagner la sortie de ce livre magnifique. Et je voudrais dire donc trois choses. La première, relever trois points qui seront peut-être pour nourrir la discussion. La première, c'est effectivement une entreprise très compliquée de vouloir écrire une histoire sur la longue durée et pas une histoire mondiale, elle est très européenne, mais avec des aperçus sur les effets de la mondialisation de l'offre religieuse ou du marché religieux. C'est une tâche très compliquée. Et de ce point de vue-là, le livre vient combler une lacune historiographique, une lacune anthropologique. Il y a des très belles études sur lesquelles le livre se fonde avant, Casagrande Vecchio, Alain Cabantous, Corinne Leveleux. Il y a énormément de très belles études, et en Allemagne aussi, dont celle de Geert Verhoef. Mais il n'y avait pas cette tentative d'écrire quelque chose qui permette d'embrasser la totalité du sujet, de la complexité du sujet. Alors, je ne sais pas si je peux continuer encore une phrase. Voilà. Et faire cela, vouloir écrire une histoire du blasphème, c'est de l'histoire du blasphème, ce n'est pas des éclats d'affaires célèbres ou quelques exemples de blasphème, c'est se lancer un défi à la fois de source, un défi documentaire, un défi méthodologique et un défi théorique et politique que je vais décrire ensuite pour vous poser voilà, deux questions ou trois questions. Mais le défi est énorme. Voilà.
Je vous en prie, allez-y, je pense que monsieur n'a pas besoin de...
Ah, alors non, alors d'accord.
Je comprends. Oui. To this point.
Ouais. Yeah. Alors, pour moi, le premier défi, et ça, la présentation orale l'a très bien montré à nouveau, c'est même si le livre en vient à donner une définition très simple du blasphème parce qu'elle sera plus opératoire, le livre montre qu'il n'y a pas de définition universelle et intemporelle du blasphème. Il n'y a pas d'énoncé en soi blasphématoire. Il n'y a pas d'énoncé qui, par nature, serait blasphématoire. Mais il y a des énoncés qui, dans des circonstances particulières, dans des économies du langage et avec des acteurs particuliers, vont être qualifiés de blasphème et vont fonctionner comme une accusation. et on va leur reconnaître un contenu. Mais en soi, si je dis aujourd'hui Dieu est une frite molle, c'est des exemples qu'on trouve au Moyen Âge où Dieu est un tonneau, voilà. Il n'y a pas d'énoncé en soi, mais des circonstances, des configurations, des actes de langage pris dans une économie des échanges linguistiques. Et donc, j'en viens à ma première question. Quand on fait ce choix-là, évidemment, il y a toute une partie qu'on voit dans le livre, une partie des outils qui sont mobilisés, qui viennent à la fois de la sociologie, de l'anthropologie religieuse et de la théorie des actes de langage. Voilà. Et donc, j'aimerais bien qu'on revienne sur peut-être en quoi le livre discute, parce que c'est l'histoire du lieu où on est, c'est aussi l'histoire de la Maison de Sciences de l'Homme, de l'EHESS, c'est l'histoire pour moi, des travaux, alors bien sûr de Austin sur les actes de langage ou de Pierre Bourdieu, ce que parler veut dire, mais aussi Jeanne Favret-Saada, hein, son travail sur l'affaire Rushdie et les volumes qu'elle a coordonnés et sur les communautés religieuses blessées. Et puis les travaux passionnants, hein, pour comprendre ce tournant du XVIIIe siècle que vous avez raconté avec l'exemple de Feuerbach, les travaux d'Elisabeth Clavery sur l'affaire du chevalier de la Barre. Donc ça serait ma première question, c'est quel rapport vous avez avec cette tradition ou ces exemples d'anthropologie religieuse, en partie d'ailleurs conduite par des gens qui ne sont pas des historiens au premier chef, Elisabeth Clavery ou Jeanne Favret, plutôt des anthropologues, des sociologues. Et puis je pense à Austin et bien sûr à Pierre Bourdieu. Donc quelle part ça a joué dans votre réflexion et dans ce choix de ne pas faire une histoire de qu'est-ce qui est blasphématoire, mais qui dit ce qui est blasphématoire et à quel moment? Et ça, je trouve que c'est une grande force du livre. Je me lance dans une deuxième question ou... Oui, bien sûr. Alors, la deuxième question, et ça, on l'a très bien vu dans la présentation écrite qui était vraiment « j'aimerais avoir ce brio-là quand je parle à l'oral », c'est qu'au fond, il n'y a pas une histoire continue. Il n'y a pas une histoire du blasphème ou de la législation anti-blasphématoire dans lequel on pourrait suivre une progression de la répression, puis un recul de la répression, puis un retour de la répression dans certains moments. Mais il y a des configurations, il y a des constellations historiques avec des moments qui jouent un rôle clé. Et au fond, le livre, c'est presque un livre d'archéologie de ces constellations, des couches qui se serait sédimenté. Il y a la couche du monothéisme que vous avez rappelé, qui est essentielle. Ce qui m'a beaucoup frappé dans la lecture du livre, c'est la couche ou la constellation de fin du Moyen-Âge, dans un contexte de perte relative du monopole de la parole par les clercs et l'émergence d'une parole civique, d'une parole juridique ou d'une parole civique, la parole des rhéteurs ou des dictatoresses des cités italiennes ou allemandes, le rôle du bien-parler, de la rhétorique, de la performance oratoire dans la gestion des communes, la naissance des communes, la prise de parole relative des laïcs avec la volonté de suivre la messe, l'exigence de la confession, une relative prise de parole des laïcs qu'évoquaient Jacques Le Goff et Carla Casagrande et Sylvana Vecchio. Et donc là, on voit bien qu'il y a un moment fin du Moyen-Âge autour d'un nouvel usage de la langue et des manières et de la réflexion sur la langue légitime, qui peut parler pour dire quoi. Et qu'on voit très bien dans ce que vous avez rappelé sur le XVIe siècle aussi, et l'usage massif du serment qui va finir par poser la question du faux serment ou du juron, l'usage massif du serment comme sacrement d'obéissance dans les guerres de religion, les guerres confessionnelles, les conflits confessionnels. C'est comme dit Paolo Prodi, il sacramento del potere, hein, le sacrement du pouvoir, c'est le serment, d'obliger les gens à prêter serment. Puis une autre configuration, la deuxième, troisième qui m'a beaucoup frappé, c'est celle des Lumières, avec là aussi quelque chose qui change et peut-être autour. J'aimerais bien que vous puissiez nous éclairer peut-être davantage sur cette question de l'opinion publique autour les communautés blessées, les communautés religieuses, les fidèles blessés et plus Dieu blessé lui-même par le blasphème, mais les fidèles et les croyants blessés par le blasphème, les blasphémateurs. Dans un théâtre, quel théâtre de l'opinion publique et de l'opinion éclairée, de la circulation aussi des nouvelles dans les journaux, ce que montre Elisabeth Clavery à propos du Chevalier de la Barre, me semble-t-il, et de l'affaire Callas aussi. Et puis, dernière configuration, j'ai presque honte d'en parler devant Isabelle Saint-Martin, c'est la configuration de la globalisation, de la mondialisation hein, de l'offre religieuse 19e, 20e, des religions mondiales. Et en même temps, et le cas français pour ça est passionnant, et en même temps de désaffiliation massive. Bien que très peu de Français soient aujourd'hui pratiquants, des catholiques pratiquants ou des protestants pratiquants, nous continuons à avoir des affaires de blasphème et des discussions sur des affaires de blasphème. Nous avons, tout à l'heure, j'ai pris un taxi et mon taxi a immédiatement, un vélo est passé devant lui et a immédiatement crié « Nom de Dieu ». Alors que vraisemblablement, il n'avait pas l'air d'être un pratiquant religieux. On avait une discussion théologique approfondie. Et la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques a donné lieu en France à une discussion sur y avait-il un épisode blasphématoire autour de la reprise par des acteurs transgenres d'une iconographie qui pouvait faire penser à l'iconographie de la scène. Isabelle a écrit un article important, une chronique importante dessus, qui a montré qu'il y a beaucoup d'imitations de la scène jouées par des personnes homosexuelles, transgenres, noires, après tout, qui a dit que Dieu était blanc, ou jouées exclusivement par des femmes. Il y a beaucoup de travaux d'artistes, de photographes. Ce qui était intéressant là, c'est qu'on la réponse aussi de gens qui ont dit d'autres articles dans Le Monde, disant mais non, c'était pas la scène, c'était un banquet, c'était une scène bachique avec Bacchus, on n'a pas compris. Cela dit, ça reprenait quand même un dispositif scénique de la scène. Pourquoi une table? Pourquoi face au public? Si c'était un banquet, pourquoi ils étaient assis? Ils auraient pu t'allonger pour manger plus à la romaine si on voulait. Donc il y avait bien quelque chose quand même qui devait susciter. Et il y a eu tout un débat public sur y a-t-il blasphème ou pas, débat sur lequel même Jean-Luc Mélenchon s'est prononcé pour dire non, il n'y a pas blasphème, il y a des croyants blessés, qui est exactement votre... Et donc voilà, j'aimerais bien votre sentiment sur ces configurations, revenir sur ces configurations, est-ce qu'elles nous disent des politiques de la langue, c'est-à-dire d'un côté l'expansion de la parole des laïcs, puis la question de l'opinion publique, puis aujourd'hui c'est désaffiliation, globalisation, et le rôle des réseaux sociaux dans le montage très rapide des affaires. Qui aurait vu les caricatures du journal danois sans Internet et sans la circulation plus rapide sur les télés, sur les réseaux Ce sont mes trois questions, mais il fallait que je m'arrête, sinon. Ouais.
Vielen Dank, Olivier. Sehr interessant, viel Stoff auch für mich zum Nachdenken. Ich versuche es kurz zu machen, damit auch noch vielleicht ein wenig wir ins Gespräch kommen können. Die Frage des wissenschaftlichen Kontextes des Buches ist für mich selber interessant aus der Rückschau, weil ich in meiner älteren Arbeit die Sprechakttheorie noch nicht wirklich in ihren Konsequenzen verstanden hatte. Und ich habe das eigentlich erst gelernt in der interdisziplinären Auseinandersetzung mit Kollegen. Wir hatten einen großen Forschungsverbund in Dresden, den wir genannt haben Invektivität. Da ging es sozusagen um Schmähungen und Herabsetzungen im Zeitalter von Trump und anderen. Und erst dann wurde mir richtig klar, was es bedeutet, eigentlich zu schmähen, dass sozusagen nichts, was ich sage, per se, kaum etwas per se schmähend ist oder nicht. Ich kann einen alten Freund begrüßen, hallo, du alter Idiot, und es ist freundschaftlich gemeint, ich kann jemanden mit ausgesuchter Höflichkeit beleidigen, weil ich nicht freundlich genug vielleicht bin.
Merci beaucoup, Olivier. Toutes ces questions me donnent assurément du grain à moudre, mais je vais essayer d'être rapide pour laisser place à la discussion. Le contexte scientifique de mon livre était aussi intéressant pour moi, car dans mon ouvrage précédent, dans mon travail sur cette question, cette théorie des discours, des actes de langage, ne m'était pas encore aussi connue qu'aujourd'hui. C'est avec des collègues de Dresde que j'ai mieux compris cette théorie. Nous avons un groupe qui s'intitule Invectivité et qui travaille sur l'outrage à l'ère de Trump et d'autres. Et c'est là que j'ai véritablement compris que l'outrage n'est pas outrage en tant que tel, pas en soi. Si je salue un vieux copain en lui disant « Salut, vieil idiot », alors ce ne sera pas un outrage, mais je peux, en saluant une autre personne, commettre un outrage qui se sentira insulté.
Das heißt, auf der Basis vor allen Dingen der Sprechakttheorie und von Performativität haben wir in unterschiedlichen Kontexten immer wieder durchdekliniert. Das Entscheidende für Schmähung oder nicht ist die Anschlusskommunikation, Follow-up-Communication. Und insofern habe ich auch mein altes Thema der Blasphemie etwas besser verstanden im Lichte populistischer, politischer, kultureller Debatten der Gegenwart. Und insofern, also ich habe Austin dann noch einmal gelesen und vertieft gelesen. Also das vielleicht zu diesem wissenschaftlichen Kontext. Das war ein langer Lernprozess. Wir haben Leute schon vor 20 Jahren gesagt, ja, du hast ein gutes Buch geschrieben, also meine Habilitation, aber du hättest mehr Sprechakttheorie einbauen müssen. Damals habe ich gesagt, warum? Heute habe ich, später habe ich verstanden, warum. Und das ist ein wenig ein Lernprozess, den ich mit dem Buch vollzogen habe.
Oui, c'est-à-dire que cette base de la théorie des actes de parole, la performativité, nous l'avons prise dans différents contextes et compris que ce qui était décisif, c'est bien qu'il y ait cette communication de suivi, en anglais la follow-up communication. C'est bien sûr un vieux sujet, mon vieux sujet, le blasphème, que j'ai mieux compris aussi à la lumière des débats contemporains. Et j'ai ensuite relu Austin, je l'ai mieux compris. Et c'est donc, mon travail était pour moi un processus d'apprentissage. Il y a 20 ans, quand j'ai écrit ma thèse d'habilitation, on me disait, oui, alors c'est un très bon travail, mais tu aurais dû intégrer davantage cette idée, cette théorie des actes de langage. Et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, et je pense que je l'ai compris, c'était un long processus d'apprentissage pour moi.
Vielleicht kann ich das gleich mit der nächsten Frage verbinden. Also die Frage, wie kann eine Geschichte der Blasphemie oder wie verhält sich das im Verhältnis zu Fortschrittsnarrativen? Also gibt es eine Modernisierung der Blasphemie? Offensichtlich nicht. Und das hat damit zu tun, dass Schmähung und Herabsetzung eben eine Universalie ist, glaube ich, also die es von der Antike bis zur Gegenwart gibt, dass sie aber natürlich in ihrer Form und ihrer Ausprägung von vielen Faktoren bestimmt wird. Und da ist natürlich die Organisation von Herrschaft und die Organisation von Gruppen und die Ausprägung von Medien von zentraler Bedeutung, wie sich sozusagen Herabsetzung und Schmähung und auch die Blasphemie tatsächlich konkret entwickeln können.
Alors, ce qui m'amène donc à la question suivante, comment l'histoire du blasphème est liée à un narratif de progrès? Alors, je pense que la réponse est plutôt non. Il y a cette histoire universelle allant de l'Antique à aujourd'hui, et le blasphème a des formes différentes, marquées, façonnées par de nombreux facteurs, bien sûr l'organisation du pouvoir, l'organisation des groupes, et les médias jouent un rôle tout à fait important là-dedans.
Dass die Organisation der Herrschaft wichtig ist, habe ich versucht mit dem Stichwort Offizialdelikt ein wenig zu konkretisieren. Aber über die Medien habe ich tatsächlich viel zu wenig gesprochen und über die Öffentlichkeit jetzt in dieser Vorstellung. Die ist von zentraler Bedeutung, glaube ich. Also die mit der Eröffnung der Gutenberg-Galaxis, mit dem Druck, gab es eine Multiplikation von Blasphemie-Diskursen natürlich, auch von Kriminalisierung durchaus von Blasphemie. Zugleich gibt es natürlich im wachsenden Maße die öffentliche Meinung, die eben auch sozusagen als Kontrollinstrument dient. Und ja, im 18. Jahrhundert in der Aufklärung kreuzt sich das, also die Hinrichtung des Chevalier de la Barre 1766 war ein öffentlicher Skandal und es war eine öffentliche Angelegenheit, ihn hinzurichten. Gleichzeitig dient es als Medium für Voltaire, nicht so prominent wie im Fall Calas, aber auch sozusagen doch irgendwie nachhaltig, das zu skandalisieren und zu sagen, so geht es nicht mit der Blasphemie.
Donc cette organisation du pouvoir, ce que j'ai appelé dans le livre délit poursuivi d'office, est très important et j'ai pu le développer. Mais effectivement, les médias, leur rôle, j'en ai sans doute pas suffisamment parlé aujourd'hui. Car avec l'ouverture de la galaxie Gutenberg, avec le développement de l'impression, ce sont aussi les blasphèmes qui se sont développés et aussi parallèlement leur criminalisation. Avec l'émergence de l'opinion publique, il y a aussi cet instrument de contrôle qui émerge. Au XVIIIe siècle, 1766, la mise à mort du chevalier de la Barre provoqua un véritable scandale. Mais c'était aussi, dans le même temps, un médium pour Voltaire, avec peut-être moins de succès que l'affaire Calas, mais de faire ce scandale et d'interroger ce qu'était le blasphème.
Und so kann man eben auch jetzt in dem neuen medialen Zeitalter der Digitalisierung, des Internet, der sozialen Medien natürlich eine neue Qualität sehen, die genau natürlich die globalen Blasphemie-Skandale angeheizt hat. Dass ohne diese Sachen ist es gar nicht zu denken. Und ja, da könnte ich jetzt viel zu sagen, aber ich glaube, die meisten hier haben eine Vorstellung davon, was ich damit meine. Vielleicht nur noch mal kurz zu dem Olympia-Skandal. Das ist, glaube ich, interessant, weil es eben die Identitätsdiskurse, die auch von Seiten des Islam oder von islamischen Stellungnahmen oft zu hören sind, sozusagen ins Christentum reimportiert. Also ich glaube nicht, dass viele Leute sehr Probleme hatten damit, dass das angeblich ein Abendmahl war, sondern es geht darum, dass man beleidigt ist, weil die christliche Identität gar nicht mehr geschützt wird. Jeder darf irgendwie auf das Christentum. Also das war die Anschlusskommunikation auch hier, dass das überhaupt nichts mit dem Abendmahl zu tun hatte. Das ist egal. Hauptsache, man kann es framen, so. Und eigentlich, das ist die typische Logik von Blasphemie-Skandalen, wie sie auch in anderen Kontexten erscheint. Vielleicht so viel.
Alors, ainsi aussi sur cette nouvelle ère, Internet et les réseaux sociaux, on voit que le blasphème a une nouvelle qualité. Tous ces médias jettent de l'huile sur le feu dans les débats mondiaux sur le blasphème. Alors, bon, je pourrais beaucoup en dire, mais il me semble que la plupart d'entre vous voient ici ce que je veux dire. Peut-être brièvement sur le scandale lié à la cérémonie d'ouverture. Peut-être le discours d'identité que l'on voit aussi dans l'islam a été par ce scandale réimporté dans le christianisme. Et je ne pense pas que beaucoup se sont offusqués, qu'il y a eu ce détournement, ce blasphème autour de la scène, mais plutôt parce que finalement que l'identité du christianisme n'est plus du tout protégée. Et c'est cette communication de suivi qui s'est produite, qu'on s'est dit finalement chacun peut en faire ce qu'il veut. Peut-être des questions dans la salle?
Ich bin jetzt gemein und mache das einfach auf Deutsch, dann spreche ich sehr schneller zu Herrn Schwerhoff. Vielen Dank für die Vorstellung. Ganz am Ende habe ich mich gefragt, welche Rolle das Spezifikum des transzendental-religiösen eigentlich noch spielt. Denn wir beobachten ja Momente des Echauffierens, der Eskalation zu Gegenständen, die jetzt ganz anders gelagert sind. In Bayern könnte man den Genderstern nennen, die Debatten rund um Vogue oder Nicht-Vogue schlagen in ähnlicher Weise hoch, ohne aber auf die Weise noch an die Dimension des entweder Sakralen im Sinne einer grundsätzlich wie auch immer ausgerichteten transzendentalen Orientierung oder des konkret Religiösen anzusprechen. Also das, was Sie jetzt zum Beispiel mit dem Rushdie-Beispiel erläutert haben, ist ja nur noch eine Facette eigentlich analog ablaufender Eskalationsprozesse. Wie würden Sie hier die Rolle des Blasphemischen tatsächlich im Sinne des Angriffs auf das Sakrale noch einstufen oder in dieser Landschaft unterbringen?
Ich denke, auf der einen Seite ist Blasphemie ein Modell zur Dramatisierung. Ja? Also man hat sozusagen gelernt, dass was einem heilig ist, das auch zu heiligen, indem man den Angriff darauf beklagt. Das ist ein Mechanismus, den wir vielleicht sozusagen kollektiv, historisch ein wenig trainiert haben und den wir auf andere Dinge sozusagen dann auch anwenden können, glaube ich. Ob man jetzt daran, wie sehr man daran glaubt oder nicht, das ist ja bei der Religion auch immer eine Frage. Aber eben der Mechanismus ist sehr gleich. Man kann natürlich sagen, wie trivial darf es denn noch sein? Aber wir sehen, dass auch das im Grunde eine Frage von kommunikativen Aushandlungsprozessen ist. Der Genderstern, wenn wir das jetzt so reden, ist natürlich von der Fallhöhe her verglichen mit der Entehrung Gottes sozusagen sehr weit unten angesiedelt. Aber wenn man den Gläubigen zuhört, ist es offensichtlich doch, und ich habe durchaus auch das Potenzial, mich über solche Dinge aufzuregen, ist es doch also auch wiederum kann man es dadurch erhöhen, dass man es sehr heilig macht und sehr prinzipiell aufhängt.
Alors oui, je pense que le blasphème c'est un modèle aussi pour dramatiser. On a collectivement appris ce qui est sacré, on sait ce qui est sacré pour nous et on le rend aussi sacré en s'indignant. Voilà, il y a une atteinte contre ce qui est sacré pour nous. C'est une chose que l'on sait, qu'on a développée collectivement. Alors, la question, si on y croit vraiment, ça se pose aussi avec la religion, bien sûr. Alors, on peut s'indigner jusqu'où on peut aller, jusqu'où le trivial est permis, etc. Vous avez mentionné l'écriture inclusive. Elle serait tout en bas par rapport à une atteinte à Dieu. Mais c'est une chose, toujours en rendant sacré une chose, on peut augmenter la puissance du blasphème aussi.
Moi, j'avais une petite question, parce que vous avez dit que, en gros, le blasphème, c'était plus, ça se tournait plutôt vers l'orthopraxie plutôt que l'orthodoxie. Moi, je sais pas, par exemple, dans le cas de Salman Rushdie, je dirais que c'est un peu des deux, et du coup, je sais pas ce que vous en pensez, parce que ça a été à la fois vu comme une sorte d'attaque, en tout cas, je sais pas, dans le cas, par exemple, de l'islam chiite, je crois que ça a été vu plutôt comme une attaque à la fois contre l'orthodoxie, donc les pratiques fondamentales de la religion, et de l'orthodoxie, donc les figures sacrées de l'orthopraxie, donc les figures sacrées. Donc je sais pas ce que vous en pensez, parce que peut-être dans les cas que vous avez énoncés, c'était pas trop sur l'orthodoxie, mais dans ce cas-là, je crois que c'était un peu les deux. En tout cas, selon mon point de vue, qu'est-ce que vous en pensez?
Also die Bemerkung über Orthopraxie und Orthodoxie bezog sich ganz speziell erstmal auf die Antike, also weil es da halt diese Unterscheidung sehr stark gibt. Tatsächlich kann man natürlich die Meinungen und die Ideen nicht vollkommen trennen von den Sprechakten, das ist klar. Und ich will auch nicht sagen, dass nicht Leute sich durch Salman Rushdies Roman, den sie auch gelesen haben, auch angegriffen gefühlt haben können. Er spielt ja mit dem Material sozusagen der religiösen Überlieferung. Aber historisch gesehen, wenn man sich die Dynamik anguckt damals, ist halt tatsächlich so, dass die wirkliche Lektüre des Romans keine oder keine große Rolle gespielt hat. Es gab ja Leute, also auch Sprecher der Ankläger, die gesagt haben, anderes Zitat, was mir im Kopf ist, ich habe diesen Roman nicht gelesen, ich muss nicht durch eine Jauchegrube gehen, um zu wissen, wie sie riecht. Also ich glaube, man könnte, also das ist sehr schwierig, in der Rezeption dieser Rushdie-Affäre sind ja auch noch viele neue Facetten also dazugekommen. Das ist ein sehr komplexes Thema, aber ich will es jetzt nur verdichten auf diese kommunikativen Dynamiken in der Frühgeschichte der Anklage gegen Rushdie, wo eigentlich diese Exegese des Romans so gut wie keine Rolle gespielt hat, sondern es ist sozusagen der Fokus darauf, das geht nicht. Also so kannst du, der Roman an sich, egal was drinsteht, ist schlecht und falsch und blasphemisch.
Cette remarque sur l'orthopraxie et l'orthodoxie faisait surtout référence à l'Antiquité, où il y a cette distinction très forte qui est faite. Mais l'idée, les opinions, c'est ce que je voulais dire, ne sont pas à séparer des actes de langage. Je ne nie pas, bien sûr, que certaines personnes ont pu se sentir attaquées par le livre de Rushdie, qui joue aussi avec la tradition des textes. Mais ce que je voulais dire, c'est surtout cette dynamique de l'époque que je trouve intéressante, que la lecture du roman, finalement, n'a pas joué un rôle important. Certains qui attaquaient le roman disaient « Alors moi, je n'ai pas lu le roman, mais je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de rentrer dans une fosse pour savoir ce qu'elle sent. » C'est un sujet complexe qui a de nombreuses facettes, mais ce qui m'intéressait vraiment, c'était cette dynamique de la communication, où on se rend compte qu'en fin de compte, l'exigence, plutôt l'exégèse du roman, ne joue pas un rôle important. Peu importe ce qui est écrit, c'est, on a dit que c'était blasphème, et c'était ainsi.
Oui, alors je suis obligé d'intervenir parce que malheureusement le bâtiment va fermer, donc on est très très en retard. Donc remercions évidemment Gerd Schwerhoff et Olivier Christin et le traducteur magnifique pour cette soirée. Merci pour les questions également. Et vous pouvez trouver le livre juste à côté si vous voulez en rediscuter un tout petit peu avec l'auteur tant qu'il est là. Merci beaucoup en tout cas.